RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Turquie, plus précisément dans la région d'Izmir, sur les rives de la mer Égée. Et nous partons à la rencontre d'une petite communauté, celle des Turcs d'origine africaine, les Afro-Turcs. Ce sont les descendants d'esclaves arrachés à leurs terres, essentiellement au XIXe siècle, et qui ont été asservis à l'époque ottomane. Certains ont été placés de force comme servantes ou hommes à tout faire dans les palais de Constantinople. D'autres encore ont été envoyés au champ. Dans la région d'Izmir, c'est pour la récolte du coton que les Africains ont été utilisés jusqu'à la fin de l'Empire ottoman au début du XXe siècle. Après la chute de l'Empire, ces esclaves sont devenus des citoyens libres et leurs descendants aujourd'hui tentent de retrouver, de conserver la mémoire de leurs ancêtres. Une tâche difficile alors que la communauté est de plus en plus petite à force de mariages mixtes et de dissémination dans les grands centres urbains. Les Afro-Turcs veulent retrouver la mémoire. Un grand reportage signé Alexandre Billette.
Tube Land le faisait des tubes.
Quand j'étais très jeune, les anciens nous parlaient de cette cérémonie, la fête de la vache. C'était complètement différent, bien sûr. Ils choisissaient une vache avec laquelle ils faisaient le tour des villages où il y avait des Afro-Turcs. Et ensuite, l'animal était sacrifié et il terminait par un grand repas. Ce n'est plus comme ça maintenant, évidemment. Maintenant, on a remplacé tout ça par ce festival.
À 84 ans, Ayşe vient encore ici, dans le parc Efeoğlu, au sud de Izmir, pour le rassemblement annuel des Turcs d'origine africaine. Aujourd'hui, on ne sait pas précisément combien sont-ils en Turquie, peut-être jusqu'à 20 000 personnes, dont les ancêtres ont été soit achetés dans les marchés d'esclaves de la Mecque par des notables de retour de pèlerinage, soit amenés de force depuis le Soudan lorsque l'Empire ottoman étendait son influence jusqu'en Afrique. Pour les Afro-Turcs d'aujourd'hui, difficile de retrouver leur histoire et leurs origines précises, puisqu'il n'y avait à l'époque aucune documentation sur leur existence, et que cette page bien peu glorieuse de l'histoire turque n'est toujours pas officiellement évoquée aujourd'hui. Ce sont ces histoires qu'un homme a voulu déterrer, Mustafa Olpak, ouvrier dans une petite ville du nord d'Izmir, qui a écrit un livre sur l'origine de sa propre famille.
Durant ma jeunesse, j'ai connu la première génération, ceux qui étaient arrivés en Turquie. Et lorsque la seconde génération a commencé à disparaître, je me suis dit qu'il fallait que leurs histoires soient connues. J'ai entendu leurs récits, j'ai été le témoin de leurs souvenirs. Du coup, en 2002, j'ai commencé à écrire l'histoire de leur vie. Ma tante m'a dit, écris notre histoire, je vais t'aider. Et c'est ainsi que tout a commencé, avec le récit de ma tante. Et j'ai finalement réussi à raconter la véritable histoire de ma famille.
Le livre de Mustafa Olpak, la biographie d'une famille d'esclaves, a finalement été publié, traduit en anglais et en français. Et cet homme est devenu en quelque sorte la mémoire, le porte-étendard de la communauté afro-turque.
Après le livre, l'idée de créer une association est venue. Lorsque mon livre a été publié, il y a des gens qui ont commencé à s'identifier comme afro-turcs. C'était un début. Mais je voulais les réunir au sein d'une organisation pour qu'on puisse échanger nos histoires ensemble. Je pouvais leur poser des questions sur des pans de l'histoire de nos ancêtres que je ne connaissais pas et vice-versa. C'est ainsi qu'en 2006, l'association des Afro-Turcs est née.
Malgré la maladie, Mustafa Olpak porte aujourd'hui à bout de bras cette association. C'est également lui qui a repris une vieille tradition des Africains de Turquie pour en faire un moment de rassemblement annuel, cette fête de la vache, aujourd'hui soutenue par la mairie d'Izmir. À quelques kilomètres au sud de ce grand parc où se tient la fête, dans la région de Torbalet, des petits villages agricoles où l'on cultive encore le coton comme à l'époque ottomane. C'est ici que plusieurs Africains ont été amenés de force justement pour travailler dans les champs. Leurs descendants sont pour certains restés sur place et c'est ici qu'habite Aïché, de retour de la fête de la vache. Son grand-père est originaire d'un pays africain, mais elle ignore lequel.
On est d'ici, nous. Je suis née et j'ai grandi ici. C'est notre grand-père qui est venu. Il a été amené là avec les autres par le sultan Abdulhamid. Ils sont arrivés ici, puis ils se sont mariés. Quand j'étais petite, il y avait plein d'Afro-Turcs, plein. Maintenant, c'est fini. Ils sont partis en ville, ils sont morts, ou ils se sont mariés avec des Blancs. On s'est mélangés. On disparaît, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est le destin.
Une communauté qui petit à petit disparaît donc, notamment en raison de ces mariages avec des Turcs à la peau blanche. Les mariages mixtes sont évidemment inévitables au sein d'une si petite communauté. Mais pour la sociologue Lulufer Körükmez, spécialiste des Afro-Turcs à l'université Ege d'Izmir, il y a une autre raison qui explique le nombre particulièrement élevé de mariages mixtes parmi les Turcs d'origine africaine.
En fait, les nouvelles générations sont plus blanches. La majorité des Afro-Turcs veulent se débarrasser de leur couleur en quelque sorte et ne pas transmettre cet héritage à leurs enfants à cause des discriminations qu'ils subissent au quotidien en raison de la couleur de leur peau. Donc ils veulent que leurs enfants soient plus blancs. Et c'est pourquoi ils veulent se marier avec des Blancs. Bien sûr, il y a encore des mariages entre Afro-Turcs, mais beaucoup moins qu'il n'y a de mariages mixtes.
Discrimination à l'école, au travail, peut-être plus encore en ville que dans les villages. Nous sommes à Izmir, dans le vieux quartier populaire de Basmane, un quartier multiculturel où se mélangent Turcs, Kurdes, plus récemment réfugiés syriens. Ici, c'est une petite maison ouverte à toutes les associations. Dans la cour, les marionnettistes donnent un spectacle pour les enfants de réfugiés syriens. Au premier étage, un atelier de cuir où travaille Yalçın Yanık, le maître des lieux qui a voulu que son atelier soit ouvert à tous. Yalçın Yanık, c'est un Afro-Turc qui a quitté son village il y a 16 ans, faute de travail là-bas. Et pour lui, la situation des Afro-Turcs est bien plus difficile ici, à Izmir.
Je suis né dans un village près de Aydın. C'est un village où la communauté afro-turque se rassemblait souvent. Donc je peux dire que c'est un peu notre maison à tous, comme toute la région autour de ce village. Nous n'étions pas discriminés là-bas, parce qu'il n'y a pas cette culture de l'humiliation. Malheureusement, j'ai bien peur que les discriminations soient davantage présentes parmi les gens plus éduqués. À la campagne, personne ne remarque les différences. Tu es de quelle nationalité, tu parles quelle langue, quelle est ta race, tout ça. C'est lorsque les différences deviennent plus politiques, comme en ville, que ça devient plus dangereux.
Une forme de racisme beaucoup plus développée donc en ville, au sein des élites politiques aussi peut-être. Yalçın Yanık qui se souvient très bien de ce discours de Recep Tayyip Erdoğan. C'était lors des manifestations de Gezi en 2013. Recep Tayyip Erdoğan était alors Premier ministre et il se plaignait de la bourgeoisie libérale qui se moquait de ses supporters islamo-conservateurs.
À leurs yeux, nous ne comprenons rien à la politique, nous ne comprenons rien à l'art, au théâtre, au cinéma, à la peinture, à la poésie. Nous ne comprenons rien à l'esthétique, à l'architecture. À leurs yeux, nous ne lisons pas, nous sommes ignares. En fait, selon eux, nous sommes des nègres.
Donc non, je ne suis pas turc, c'est un fait. Je suis citoyen de la République de Turquie, certes. Mais dans ce pays, c'est un problème si je me revendique d'une autre ethnicité. On parle de citoyen du monde, d'internationalisme. Mais dans ce pays, on apprend aux enfants à l'école la phrase d'Atatürk. Heureux celui qui se dit turc. Ce qui veut dire, je suis fier d'être de race turque. Moi, ethniquement, je suis africain. Alors comment pourrais-je dire ceci? Donc je vis dans ce pays en tant que citoyen du monde, rien de plus. Pourquoi y a-t-il toutes ces discriminations ici? C'est franchement dangereux.
Dans un pays qui se définit souvent par l'appartenance à la nation turque, la place des Afro-Turcs n'est donc pas simple. Certains vont même jusqu'à refuser cette double identité turque et africaine. La sociologue Lulufer Kürükmez.
Il y a encore des gens qui refusent l'expression Afro-Turc. En général, ils vont seulement dire « je suis turc » et « je suis musulman ». Pour certains, le fait d'être lié à l'Afrique est péjoratif, puisque l'image de l'Afrique et des Africains dans les médias turcs est hautement négative. On dit « ils sont pauvres, ils n'ont rien, ce sont des réfugiés, etc. » Ça est le passé esclavagiste. C'est pourquoi certains ne veulent pas être liés avec quoi que ce soit d'Africain. Mais on retrouve ceci en général chez les plus vieux. Parmi les générations plus jeunes, c'est souvent vu au contraire comme quelque chose de cool, grâce notamment à l'image des Afro-Américains ou des Afro-Allemands. Pour eux, c'est donc cool d'être Afro-Turc.
Je suis fier d'être Afro-Turc parce que j'ai un style différent.
Emre Şölenoğlu a 28 ans, il est guide touristique à Izmir.
Être Afro-Turc m'a toujours donné des avantages dans ma vie sociale, depuis que je suis adulte. Lorsque j'étais enfant, ce n'était pas très agréable en fait. C'était dur. Étudier avec des gamins riches et gâtés a toujours été un problème pour moi, à cause de la couleur de ma peau.
Encore une fois, un racisme plus présent dans les classes sociales supérieures, donc. Mais contrairement à Yalçın Yanık, Emre, lui, se sent turc à part entière.
If the color of a person is changing its nationality,
je trouverais ça vraiment étrange si la couleur de la peau devait déterminer la nationalité de quelqu'un. Parce que nous vivons en Turquie, nous ne sommes pas en Suède où 80% des gens sont grands et blonds. Il n'y a qu'une race là-bas. Mais en Turquie, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas nouveau non plus. Depuis l'époque ottomane, il y a toujours eu toutes sortes de races sur ces terres. Donc oui, je suis peut-être un Turc très inhabituel, mais encore une fois, qui ressemble à un vrai Turc dans ce pays ?
Retour au parc Efeoğlu alors que la fête de la vache se termine. Et parmi ceux qui ont interprété des danses cette année sur la scène, un groupe d'étudiants africains.
Je m'appelle Aliou Badagbo, je suis togolais, et je suis à Esbi depuis 2 ans. Et je suis étudiant et j'étudie la gestion d'entreprise à l'université de Ege. Nous sommes en train de célébrer l'apothéose de la 10e fête internationale des Afro-Turcs. Nous, en tant qu'étudiants africains résidant ici en Izmir ou bien en Turquie, on pouvait se joindre à eux pour que la fête soit beaucoup plus grandiose et qu'il y ait beaucoup plus de l'ambiance. En cela, j'ai aussi contacté mes frères et sœurs étudiants africains qui résident ici en Turquie. Donc on a formé un petit groupe de danse, de quoi accompagner le festival. Puisque quand vous remarquez réellement, c'est vrai, ce sont des Afro-Turcs. Ils ont une origine africaine. Mais il n'y a rien qui reste de la culture, ni la danse, il n'y a rien du tout qui reste. C'est peut-être le teint qui, ou bien comment dirais-je, la peau qui reste. Mais le reste, ils ont tous perdu. Donc nous, on veut essayer de ramener un peu cette culture qui est en nous, puisque nous on vient fraîchement de l'Afrique, on a encore cette culture, ces pas de gestes là en nous. Donc essayer de nous joindre à eux pour les faire revivre hein, ce bon moment du passé. Donc c'est en cela qu'on a accompagné le festival avec nos danses, nos musiques et tout.
Pour la 10e fête annuelle, il y avait un peu moins de participants cette fois-ci, de quoi inquiéter les organisateurs. C'est peut-être aussi l'image d'une communauté qui se fait vieillissante, tandis que les jeunes générations se sentent aujourd'hui plus turques qu'africaines. La sociologue Lulufer Kürükmez.
Les plus jeunes ne sont pas très impliqués, ni dans le festival, ni dans l'association. Certains d'entre eux voudraient bien le faire, mais ils n'ont pas le temps, parce qu'ils travaillent, etc. Malheureusement, je pense que ce festival ne sera plus célébré dans 10 ans, sauf si des jeunes s'impliquent, mais ça me semble très improbable, malheureusement.
Alors, est-ce la fin de l'histoire pour cette communauté, ou alors, malgré l'assimilation, malgré les mariages mixtes, malgré la dissémination dans les grandes villes, il restera toujours cette mémoire, celle portée par Mustapha Ulpak et celle chantée par Esmeray, la grande voix afro-turque. Les Afro-Turcs veulent retrouver la mémoire, un grand reportage d'Alexandre Billette, réalisation Mathieu Salamer.
Bonjour Alexandre Billette.
Bonjour Charlotte.
Vous êtes donc de retour d'Izmir où vous avez rencontré ces Afro-Turcs, ces descendants d'esclaves. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné lors de votre reportage ?
Alors écoutez, je vous dirais l'ignorance des Turcs à la fois sur l'existence même de cette communauté et aussi sur la période esclavagiste qu'a connue la Turquie lors de la période ottomane. La quasi-totalité des collègues, des amis ignoraient jusqu'à l'existence de cette communauté, même à Izmir, qui est pourtant le cœur, en quelque sorte, là où se retrouve la majorité des Afro-Turcs, eh bien, leur histoire est très peu connue et très mal connu, je dirais. D'ailleurs, le jeune Afro-Turc du reportage, Emre, me disait qu'il était très habituel pour lui, par exemple, de se faire aborder en anglais dans sa propre ville par des commerçants, par exemple, qui le croyaient américain ou européen, qui le prenaient pour un touriste. Donc, la réalité Afro-Turque est très mal connue, même en Turquie, même à Izmir, certainement pour des raisons notamment historiques, parce que la période de l'esclavagisme est une partie méconnue de l'histoire du pays, et certainement aussi parce que la Turquie s'est bâtie sur le concept de la nation turque, au détriment donc des minorités nationales de ce pays.
Est-ce que ça a été compliqué ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières lors du reportage ?
Alors écoutez, oui, une difficulté qui n'était pas du tout prévue au départ et qui a été très révélatrice, je trouve, de la situation des Afro-Turcs. Je suis allé d'abord par moi-même dans les villages où vivent les Afro-Turcs, donc au sud d'Izmir, et la plupart des personnes que j'ai rencontrées d'abord n'ont pas voulu me parler, du moins pas avant que je ne rencontre Mustapha Ulpak, donc le directeur de l'association Afro-Turc. Ce que j'ai fait par la suite, et on m'a expliqué la raison de cette méfiance, c'est en raison des quelques articles qui ont été publiés dans la presse turque ces dernières années sur la communauté afro-turque, des articles très caricaturaux, à la limite du racisme même parfois, pour certains articles que j'ai pu lire par la suite. Donc la communauté est très très méfiante désormais vis-à-vis de la presse, ce qui fait en sorte, encore une fois, que l'histoire de cette communauté est soit très mal expliquée dans les médias turcs, soit justement ignorée, puisque les afro-turcs préfèrent garder le silence plutôt que d'être ridiculisés ou limités au caractère, disons, exotique de leur histoire et de leur vie.
Et la plupart des personnes que vous avez rencontrées, que vous avez interviewées, sont plutôt pessimistes sur l'avenir de cette communauté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que ce sont des craintes que vous partagez ?
Écoutez, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir de voir cette communauté, en effet, survivre d'ici une ou deux, voire trois générations. Déjà, les familles mixtes font en sorte que les Afro-Turcs disparaissent petit à petit dans la masse turque. C'est normal, en quelque sorte. Ce serait encore plus inquiétant s'il n'y avait pas de mixité entre la communauté afro-turque et le reste de la population turque. Mais là où c'est particulièrement triste, disons, c'est qu'il y a très peu de mémoire de cette communauté. C'est ce que tente de faire Mustapha Ulpak en écrivant, par exemple, l'histoire de sa famille. Mais il y a très peu de traces de cette communauté, puisqu'il s'agissait d'esclaves. Donc on leur a à tout prix leur identité, leur langue. Personne parmi les Afro-Turcs ne sait vraiment d'où vient leur famille, par exemple, de quel pays viennent leur famille. Donc sans histoire, sans pouvoir se rattacher à une histoire, à son histoire, eh bien c'est encore plus difficile pour une communauté minoritaire comme celle des Afro-Turcs de tenter de survivre.
Les Afro-Turcs veulent retrouver la mémoire. Votre grand reportage, Alexandre Billette, est à retrouver, à réécouter quand vous le voulez sur RFI.fr.